VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue à tous dans cette édition dont voici d'abord le sommaire. L'ancien président américain Donald Trump inculpé dans l'affaire des archives de la Maison Blanche. Les belligérants au Soudan acceptent une nouvelle trêve, annonce le médiateur saoudien, alors que des affrontements se poursuivent à Khartoum. Le gouvernement du Burkina Faso offrait des primes pour l'arrestation de 20 terroristes. Goma, Dance Festival à l'est de la RDC, une célébration culturelle pour la paix et la cohabitation pacifique. C'est dans notre page magazine. À suivre dans notre page économie, l'Office national pour la promotion de l'emploi lance l'initiative Crédit Agricole. Nous sommes au Tchad. Puis dans les sports, la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2023 aura lieu le lundi 30 octobre au Théâtre du Châtelet à Paris. Et demain, Manchester City face à l'Inter Milan tutoie son rêve de Ligue des Champions en finale. Mais d'abord, le journal. Ici aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump a été inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. Le républicain candidat à l'investiture de son parti en vue de la présidentielle de 2024 l'a lui-même annoncé hier soir sur son réseau Truth Social, tout en clamant son innocence. Jacques Aristide.
Donald Trump, désormais le premier ancien président de l'histoire des États-Unis, inculpé au niveau fédéral, indique avoir été convoqué devant un tribunal fédéral de Miami mardi prochain. En août dernier, des agents du FBI avaient saisi des documents, dont certains estampillés top secret, dans sa maison de Floride. Our country...
Notre pays va en enfer et il poursuit Donald Trump en armant le ministère de la Justice, en armant le FBI. Je suis un homme innocent. Nous le prouverons à nouveau. 7 ans à le prouver et voilà que ça recommence. C'est très injuste, mais c'est comme ça.
Son avocat Jim Trusty a indiqué sur CNN que son client faisait l'objet de 7 chefs d'inculpation, notamment en vertu d'une loi sur l'espionnage qui interdit de garder des documents classifiés dans des endroits non autorisés et non sécurisés. Le ministère de la Justice n'a fait aucun commentaire pour l'heure et le dossier judiciaire demeure sous scellé. Hier, le président Joe Biden a été interrogé sur l'indépendance de ce ministère.
Je n'ai jamais, pas une seule fois, suggéré au ministère de la Justice ce qu'il devrait faire ou ne pas faire en termes d'inculpation ou de non-inculpation. Je suis honnête.
Parlant de chasse aux sorcières et d'ingérence électorale, des républicains dont le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un rival dans la course à la Maison-Blanche, ont apporté leur soutien à Donald Trump, qui devance en ce moment largement les autres candidats à l'investiture de leur parti. Elon Musk, le patron de Twitter, est lui d'avis qu'il semblait y avoir plus d'intérêt à poursuivre Trump que d'autres politiciens. Les démocrates ont, eux, salué la nouvelle tout en mettant en garde contre le discours de Donald Trump. Il va essayer d'instrumentaliser cette inculpation pour des gains politiques, parce que gagner la présidence sera peut-être son seul moyen d'éviter la prison, a déclaré l'élu Adam Schiff. En mars dernier, Donald Trump avait déjà été inculpé pour fraude comptable par la justice de l'État de New York. L'ancien président a plaidé non coupable. Il fait l'objet de plusieurs autres enquêtes. Aux États-Unis, être inculpé et même condamné pour un délit ou un crime n'interdit pas d'être candidat, élu ou d'occuper une fonction officielle.
Jacques Aristide, l'inculpation de Donald Trump a suscité de nombreuses réactions d'indignation chez les leaders républicains, y compris ses potentiels rivaux dans la course pour l'investiture. Écoutons à ce sujet l'avocat Dennis Beaver, Abdurrahman Dia, l'adjoint à Bexfield, un bastion républicain en Californie.
C'est un duel avec, disons, les opinions divisées. À gauche et à droite. Je pense que la plupart des gens qui sont au courant avec tout ce qui se passe pensent comme moi. c'est un vrai danger au public américain, au monde entier. Mais tu sais, avec la publicité, c'est un homme très attractif. Ce qu'on va faire quand il s'agit de vraiment le roi, alors qui sait?
Mais on a vu certains de ses adversaires républicains l'ont quand même soutenu. Hein. Vous pensez que c'est un soutien de principe seulement ou bien c'est sincère?
Non, je crois que petit à petit, la glace va briser et ils vont abandonner. Les autres, les top républicains vont abandonner Trump.
C'était Dennis Beaver, avocat à Bakersfield, en Californie. Les charges retenues contre Donald Trump sont lourdes et les procureurs semblent avoir construit sur plusieurs mois un dossier étoffé. Politiquement, il est probable que cela ne décourage pas ses partisans qui jusqu'ici adhèrent totalement à ces accusations de machination politique. Suivez la réaction du professeur Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group.
Mais écoutez, ça abîme ses chances pour être président de la République, mais ça abîme pas tellement ses chances pour être candidat républicain, parce qu'en fait, ça ne fait que renforcer sa base un peu de droite ou d'extrême droite trouve que c'est une affaire très politique et qui est uniquement politique, qu'il n'y a pas grand-chose par derrière. Alors ils vont essayer de profiter de ça pour prendre encore plus d'argent dans le public et pour dire que vraiment c'est un État qui est contrôlé par les démocrates, etc., etc. C'est-à-dire qu'il va utiliser ça pour abîmer les autres candidats républicains, obtenir la nomination plus facilement et par contre, ça va lui faire beaucoup de mal parmi les indépendants pendant les élections nationales. Ça, je ne sais pas parce que, en fait, son problème, c'est pas tellement d'avoir.
C'était donc Jean-François Seznec, politologue et économiste.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les camps des deux généraux en guerre au Soudan ont accepté une trêve de 24 heures selon les médiateurs saoudiens et américains. Néanmoins, les affrontements se poursuivent aux abords du plus important complexe militaire du pays, Claire Morégibourg.
La trêve doit s'appliquer dans tout le Soudan à partir de samedi 10 juin à 6h, heure de Khartoum, a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères saoudien. Les parties se sont engagées à cesser les violences pendant la durée de la trêve et à permettre l'arrivée de l'aide humanitaire dans tout le pays. Il s'agit d'une énième trêve, après de nombreuses autres qui n'ont quasiment pas été respectées. Dans cette guerre déclenchée le 15 avril entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Abdan Daglou. La guerre a déjà fait plus de 1800 morts et les ONG ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur la détérioration de la situation humanitaire, alors que de nombreux hôpitaux dans les zones de combat sont hors service.
Au Burkina Faso, le gouvernement offre de fortes primes d'argent pour des informations susceptibles de conduire à l'arrestation ou la neutralisation de 20 terroristes accusés des violences djihadistes récurrentes qui endeuillent le pays. Les services de sécurité ont publié hier sur les médias locaux la liste des 10 terroristes et leur portrait. Nanit Talani.
Les primes vont de 150 000 à 275 000 euros, soit 180 millions de francs CFA, pour des informations pouvant mener à la capture de ces 20 terroristes activement recherchés pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d'actes terroristes. Si vous fournissez des informations de nature à permettre l'arrestation ou la neutralisation d'un de ces individus, vous recevrez le montant indiqué sur la photo du concerné, précise un message du ministère en charge de la sécurité publié sur les médias locaux avec les portraits des terroristes ciblés. Ce sont tous des Burkinabés, nés pour la majorité dans la région du Nord, à l'exception de Sita Ousseini, alias Lukman, un Nigérien de 33 ans. En tête de liste figure Diallo Moussa, alias Abou Ganiou, 40 ans, et Sidibé Draman, alias Hamza, 45 ans, un proche du Malien Amadou Koufa, un important chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale coalition affiliée à Al-Qaïda au Sahel. Sur la liste figure également des chefs de Katiba, unité de combat des groupes djihadistes, dont Diko Amadou, alias Souka Malde, et Boli Oumarou, alias Oumi.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la minute écho de Nathalie Barge.
Au Tchad, l'Office national pour la promotion de l'emploi a lancé l'initiative Crédit Agricole de la campagne 2023-2024. Ce programme offre des prêts à taux zéro aux agriculteurs. Selon Tchad Info, 1,2 milliard de francs CFA ont été mobilisés pour la mise en œuvre de l'initiative dans 8 provinces du sud du pays. Cet appui financier permettra aux bénéficiaires de cultiver plus de 17 000 hectares et de créer 40 000 emplois. La Banque africaine de développement et l'initiative ERADA de réforme de la réglementation égyptienne organisent dimanche un séminaire sur le thème « Environnement propice aux affaires pour un développement économique vert ». Parmi les sujets traités, notamment les biofertilisants, les énergies renouvelables, l'écotourisme et le recyclage des déchets, avec des débats sur les financements et stratégies en faveur d'une économie verte. Le fonds Transform Health, visant à promouvoir la santé universelle, a levé 50 millions de dollars lors de sa première clôture. Ce fonds financera des innovations pour améliorer les systèmes de santé et la qualité des soins en Afrique subsaharienne. Les domaines ciblés sont la chaîne d'approvisionnement, les modèles de prestation de soins et l'innovation numérique. La Société financière internationale a contribué à hauteur de 15 millions de dollars.
Sans transition, nous passons à votre page sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Demain se joue la finale de la Coupe du Mali.
Oui, la formation des 11 créateurs affronte le stade malien au stade du 26 mars du Bamako. Coup d'envoi 16h temps universel. Pour le coach adjoint des 11 créateurs, Boubacar Koulibaly, tout a été mis en œuvre pour que son club remporte le trophée.
On compte sur notre propre moyen, la solidarité, la confiance. Nous sommes prêts. On demande tous les Maliens de venir seulement pour supporter notre équipe.
Boubacar Koulibaly, coach adjoint des 11 créateurs. Le coach du stade malien de Bamako, Siaka Traoré, dit croire lui aussi aux chances de se protéger.
Une finale, voilà, c'est bien de jouer, mais une finale, on joue pour la gagner aussi, quoi. Ça débouche sur une compétition africaine qui est vraiment importante, qui est une vitrine pour les joueurs. Ils sont conscients et puis il faut faire plaisir à tous les supporters qui sont là.
Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Yacouba, Naby Keïta quitte Liverpool.
Le milieu de terrain guinéen qui était en fin de contrat avec Liverpool s'est engagé avec le Werder Bremen. L'annonce a été faite par le club allemand. Alors qu'il évoluait au RB Leipzig, Naby Keïta a rejoint Liverpool en 2018 où il a remporté avec les Reds la Ligue des Champions et les titres nationaux de la Premier League, la FA Cup et la Ligue Cup. Il a beaucoup été blessé ces temps-ci avec les Reds et a peu joué pour la journaliste guinéenne Bintia Kondé. Naby Keïta fait bien de partir maintenant.
Moi, je pense que c'est une bonne décision. Ça va lui permettre de se relancer. Ces derniers temps, nous avons vu Naby qui n'arrivait plus à convaincre le club. Naby qui était tout le temps avec des blessures. Donc, tout le temps, il grignotait quelques minutes dans les différents matchs. Et aujourd'hui, s'il doit retourner encore en Bundesliga, donc c'est un autre défi à relever, ça va lui permettre de se relancer.
Bintia Kondé, journaliste à la RTG, Radio-Télévision de la Guinée.
Enfin, Yacouba, la grande finale de la Ligue des Champions, c'est demain à Istanbul.
Cette finale de demain samedi à 19h temps universel à Istanbul s'annonce épicée par des duels directs ou à distance de haut vol. Bagassi Koura.
Oui, André Onana, le portier camerounais de l'Inter, ne fait pas de cauchemar avant d'affronter Erling Haaland. Dans cette vie, je n'ai peur que de Dieu. Je ne le vois pas sur le terrain. A lâché le lion indomptable à 27 ans, l'ex-gardien de l'Ajax d'Amsterdam dispute sa première finale de Ligue des Champions. Contrairement à son homologue brésilien Ederson, battu par Chelsea en 2021, le grand tatoué de 29 ans joue aussi la décontraction avant le bouquet final. les gardiens de City doivent rester calmes dans ces situations et montrer de la personnalité.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et Eric Manila Kizado, retour avec vous pour les dossiers du jour. Après son investiture le 29 mai, le président nigérien Bola Tinubu a annoncé qu'il mettrait bientôt fin à la subvention du carburant vieille de plusieurs décennies, estimant que le pays ne pouvait plus en supporter le coût. Ces commentaires ont déclenché une ruée vers les stations d'essence et suscité des inquiétudes quant à l'inflation dans l'un des principaux pays producteurs de pétrole d'Afrique. Un reportage de Gibson Emeka à Abuja, récit signé Didi Diko.
Happiness Mudogna, veuve et mère de 5 enfants, a perdu son emploi de femme de ménage en avril. N'ayant plus d'économie depuis son dernier emploi, qui ne lui rapportait que $35 par mois, Happiness Mudogna a commencé à produire et à vendre du lait de souchet pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais ses revenus sont à peine suffisants pour faire face à l'augmentation du coût de la vie due à l'inflation galopante.
Lorsque je travaillais sur cette route principale, les gens m'aidaient en me donnant de l'argent. Mais à la fin du mois dernier, cela n'a pas été facile pour moi. Ma fille veut parfois mendier de la nourriture. Elle a voulu mendier de la nourriture un soir lorsque nous rentrions de l'église. J'ai commencé à pleurer.
La jeune femme n'est pas la seule dans ce cas. Le taux d'inflation a atteint 22% au Nigeria en avril, selon le Bureau national des statistiques. La tentative de contrôler cette pression inflationniste est la principale raison pour laquelle le nouveau gouvernement nigérian a déclaré qu'il allait supprimer les subventions au carburant à partir du mois de juillet.
Les subventions ne peuvent plus être justifiées. Leur coût est de plus en plus élevé et les ressources tarissent.
Depuis l'annonce du président Tinubu, les prix du carburant à la pompe ont augmenté dans tout le pays. Les experts estiment que cette hausse ne fera qu'aggraver les difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens lambda.
Dès qu'il y a une augmentation d'un naira du prix des produits pétroliers, il faut s'attendre à une augmentation de 3 naira des prix des biens et des services au Nigeria. Il faut donc s'attendre à ce qu'au moins 150 millions des Nigériens tombent sous le seuil de pauvreté. Voilà ce que cela implique.
That is the implication.
La nouvelle administration se dit consciente des difficultés liées à la suppression de la subvention, mais estime qu'il s'agit de la meilleure solution pour la santé économique du pays à long terme.
Nous allons au contraire réorienter ces fonds vers de meilleurs investissements dans les infrastructures publiques, l'éducation, les soins de santé et l'emploi, ce qui va améliorer matériellement la vie de millions de personnes.
Les observateurs économiques s'accordent en général à dire que la suppression de la subvention sera bénéfique à long terme. Mais nombreux sont ceux qui demandent au gouvernement d'élaborer une stratégie pour atténuer l'impact à court terme sur les citoyens.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La ville de Goma, dans l'est de la RDC, accueille du 5 au 10 juin le Goma Dance Festival. Des danseurs venus d'Europe, d'Amérique et des pays de la région des Grands Lacs ont convergé vers Goma pour participer à cette célébration culturelle unique. Les participants dansent ensemble pour promouvoir les valeurs positives de la culture congolaise et aussi faire passer les messages de paix et de cohabitation pacifique. Reportage de notre correspondante dans la région, Zanem Neti Zaidi.
Cette édition du Festival des danses a accueilli les artistes congolais et étrangers. Ils sont venus donner du baume au cœur de ces Congolais de l'Est qui vivent dans une région qui fait face à des défis sécuritaires. Faradja Batoumike est le directeur du festival.
Le but, c'est de réunir les gens chaque année, danser, échanger, partager dans le but de renforcer les capacités des gens dans celle de Goma et celle de la région de Grand Lac. Et que même avec ce qui se passe entre nos pays voisins, nous on invite que ce soit les Rwandais, les Burundais, on s'en fout de discuter sur différentes questions de paix ou de cohabitation pacifique dans notre région. De vivre ensemble, la promotion des dialogues de paix et tout ça qui se passe. Et la danse reste quand même l'image clé qu'on met en avant.
Milan Emmanuel, venu de Belgique, est venu appuyer la tenue du Goma Dance Festival. Il est venu transmettre son expérience comme organisateur des événements culturels en Belgique, mais aussi montrer que la danse peut être un facteur de paix dans cette région meurtrie.
Au-delà de la danse, moi j'essaie de leur faire parler de ce qui compte pour eux dans leur création, les questions qui les habitent. Mais je ne suis pas venu faire de la géopolitique, c'est pas mon métier ni mon rôle. Donc la danse peut être un bon canal d'amélioration, d'évolution personnelle et aussi acteur de paix, d'échange et de rencontre. Autant de voir qu'il y a des danseurs qui viennent du Rwanda, du Burundi.
Pour les danseurs, ce festival est chaque année une occasion d'échanger et de rencontrer les différents collègues. C'est aussi un moyen pour changer les stéréotypes autour des communautés de la région. Winnie Ange Uwibara est danseuse venue du Rwanda. Pour elle, le conflit entre son pays et la RDC est politique et que les artistes sont une famille. Elle garde espoir d'un avenir pacifié entre les deux pays.
Pour les artistes, il n'y a pas de conflit. Tu vois. Et même quand on a le contrat au Burundi, nous étions comme une famille. Tu vois. Et même ici, quand on a venu, on a des sécurités, on a donné tout. Et j'aimerais qu'avec cette politiciens, il peut s'attendre un jour et puis il peut mettre d'accord à tout ça et puis peut-être qu'un jour il y a la paix du Rwanda et du Congo.
Le Goma Dance Festival est convaincu que le secteur culturel congolais peut être un facteur d'unité avec les structures et artistes professionnels étrangers qui peuvent devenir une véritable force pour développer et professionnaliser les secteurs artistiques congolais, de mettre en lumière les talents de la jeunesse congolaise, mais aussi un moyen de promouvoir les côtés positifs de la ville de Goma et la région est de la RDC. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Créer une entreprise familiale n'est pas toujours chose facile, mais c'est un défi que les frères et sœurs Koité, des Sénégalais installés aux États-Unis depuis des décennies, ont pu relever avec succès, avec notamment l'ouverture de leurs deux restaurants Koité Grill à Silver Spring et College Park dans le Maryland. Reportage de Nanit Talani et Sims Lumami.
Les Koité sont 7 frères et sœurs formant une famille de restaurateurs regroupés autour de Koité Grill. Ils ont été inspirés par leur mère qui possédait une boucherie à Longley Park, une localité située dans le Maryland. Adia Koité est gérante et chef cuisinière.
Voyant ce qu'elle était capable de faire sans parler la langue, avec beaucoup de défis auxquels elle était confrontée à l'époque, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait aucune raison pour que nous puissions faire cela.
Proposant des plats authentiquement sénégalais, comme le tiboudjem, le mafé, le yassa, mais aussi des plats d'autres pays comme la tchéké de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le restaurant offre des spécialités américaines, à l'instar des chicken wings ou des macaronis au fromage, avec une petite touche d'épices sénégalaises pour connecter les gens de différentes cultures. C'est ce qu'explique Binetou Koité du service client.
Our parents came here.
Nos parents sont venus ici et nous sommes tous venus avec eux très jeunes. Nous savons que nous sommes Africains, nous vivions en Afrique et nous prévoyons d'y retourner. Mais nous voulions laisser notre marque ici en Amérique pour montrer que nous sommes venus ici et que nous avons fait quelque chose et que nous avons laissé quelque chose.
La variété des plats attire une clientèle de tous horizons qui afflue de partout pour savourer les délices du Koité Grill.
Lorsque vous venez au restaurant, vous avez les Asiatiques, vous avez les Caucasiens, vous avez les Hispaniques et vous aimez voir tous les types de personnes venir entrer et profiter de la nourriture et dire sincèrement, j'ai l'impression d'être de retour à la maison. Quand vous entrez ici, vous voulez sentir comme, oh, je suis en Afrique en ce moment, appréciant la nourriture, appréciant les gens.
Chez Koité Grill, la direction et la majorité du capital sont détenues par les 7 frères et sœurs. Ils gèrent aussi la majeure partie des tâches nécessaires, de la cuisine au service client, en passant par la réception. Mais le restaurant recrute aussi des personnes en dehors du cercle familial, comme le témoigne Daina Rez, qui s'occupe des questions administratives, la technologie, les points de vente des relations avec des tiers ou des livreurs comme DoorDash.
It's such a beautiful experience.
C'est une si belle expérience et ça porte ses fruits parce que nous voyons l'entreprise grandir, se renforcer et s'étendre. Ils ont créé une belle vie de famille. Ces enfants travaillent si bien ensemble et ils font tout ce qui est nécessaire pour assurer le succès de l'entreprise. Pour moi, américaine, c'est aussi un excellent exemple pour moi et ma famille. Nous adorons voir ce genre d'unité et d'harmonie familiale.
En plus des deux restaurants dans le Maryland, les Coïtés ont un food truck, un camion vendant de la nourriture à Washington, D.C., la capitale fédérale américaine.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le célèbre télévangéliste conservateur Pat Robertson, prise de position souvent extrême, est mort hier jeudi à 93 ans. Son décès a été annoncé par la chaîne de télévision de Christian Broadcasting Network, CBN, qu'il a fondée en 1960. Robertson a animé pendant des années une émission quotidienne ultra-conservatrice de 700 Club, très suivie dans le monde entier. Quel est l'impact de sa disparition sur sa communauté religieuse et ses fidèles? Suivez l'historien Mohamed Mbodj.
Très certainement, la continuité de son influence va poser problème, en particulier avec des problèmes dans sa famille même. Mais au-delà de ce problème de succession, disons, dans le leadership qu'il assumait, il y a le problème du futur de l'influence religieuse sur la politique américaine. Certainement, il a été crédité d'avoir inauguré cette ère de la morale majority, la majorité morale, définie dans les termes très limités en fonction donc, des églises dominantes du côté du monde blanc, sans pour autant embrasser d'autres dénominations chrétiennes pour en faire un mouvement, disons, pan-chrétien. Et ce qui a érodé en réalité la crédibilité de ce mouvement au fur et à mesure. Maintenant que ce mouvement a coopté des individus à la moralité, disons, qu'on peut interroger comme Donald Trump, il y a parmi les journalistes beaucoup qui disent qu'en fait, cette influence religieuse va s'éroder de plus en plus et en particulier ne va plus être suffisante pour élire ou pour défaire des candidats, en particulier dans des élections au plan national.
Sa disparition va sans doute affecter le paysage médiatique religieux.
Ah oui, très certainement. Donc, ce paysage qui est en train de se reconstituer parce qu'avec Fox, qui avait plus ou moins fédéré donc toutes ces tendances dans une chaîne nationale que chacun pouvait voir partout avec avec les mêmes messages, les mêmes journalistes, les mêmes interviews, Fox est en train de reculer donc avec le scandale des élections et de ce qui s'est passé post-élection et de sa récente condamnation avec Sean Hannity. Donc, il y a des journalistes qui disent qu'en réalité, les chaînes affiliées de façon religieuse sont en train de combler ce vide et de reprendre une influence qu'elles avaient un tout petit peu perdue, non pas en disparaissant, mais qu'elles avaient perdue simplement en retransmettant ce qui avait été déjà transmis ou ce qui avait été déjà produit par Fox. Maintenant, ils sont revenus à la case pour produire leurs propres émissions, leur propre programme. Et donc, de ce point de vue-là, l'influence de l'information à caractère religieux par des organisations donc chrétiennes fondamentalistes ne va pas reculer.
Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattanville College. Le Monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manelakiza à son micro, à la mise en onde, et Joselle de Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.